La mairie vous répond. Le rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi, tous les deux mois, à 18h10 sur Neptune FM.
13e numéro de la mairie vous répond. On parle de l'aménagement du territoire de l'Île-Dieu dans les studios. Bruno Nourrit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Patrice, oui. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint à l'environnement.
Oui.
Michel Charbot, bonjour.
Salut Roland.
Vous êtes adjoint à la transition énergétique et à la vie économique. Johan Pruneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'aménagement du territoire. Le plan local d'urbanisme est-il totalement validé à ce jour?
Oui, alors ce plan local d'urbanisme a nécessité beaucoup de travail en amont. On l'a validé début 2014. On a eu une dizaine d'attaques au tribunal administratif qui ont fait l'objet d'un premier jugement et d'une réponse à ce jugement le 10 janvier dernier. Donc sur la globalité, il n'est pas remis en cause, donc il est bien sûr applicable. On a trois aménagements à faire de modification de zones, par exemple de la zone N remarquable en zone N tout court, donc c'est pas des gros changements ou d'une zone agricole, il y a un petit endroit où il faut la transformer en UHA, donc avec un cost très faible, mais l'intégralité du jugement aujourd'hui ne remet pas en cause le PLU. Bon, après il faut voir si les gens vont faire appel, ils ont encore quelques temps pour faire appel, donc on verra bien, mais ça suit son cours.
Ces personnes peuvent faire appel jusqu'à quand, Johan?
Jusqu'à fin mars.
Ou jusqu'à fin mars.
Jusqu'au 11 mars, normalement.
C'est ça, la réception du jugement, c'est ce qui fait courir la date. Donc nous, on a reçu les jugements le 16 janvier, donc 2 mois pour faire appel, donc les appels sont enregistrables jusqu'au 16 mars.
Mais pas de grands changements à prévoir?
Non, parce que si le premier jugement donne raison à la commune, un jugement en appel, ce serait plutôt pour voir des questions de forme ou autre, mais on n'est pas très inquiet à partir du moment où il y a eu ce premier jugement.
Combien de temps travaille ce PLU?
4 années.
4 ans?
Oui, celui-ci 4 ans, le précédent 5, pour 190 réunions.
C'est un énorme travail.
Tout à fait, c'est pas qu'un terrain administratif, c'est un travail aussi de terrain, pardon. Et voilà, et effectivement, à travailler avec tous les partenaires locaux, parce qu'effectivement, c'est pas que les agents ou les élus qui travaillent sur un dossier, c'est bien aussi avec le tissu associatif qu'on a construit ce projet.
Quelles sont les grandes orientations d'aménagement de ce nouveau PLU, pour rappel?
En fait, il n'y a pas de. Dans ce nouveau PLU, il n'y a pas de grands aménagements. Là, dernièrement, on a fait une modif du règlement, c'est que l'aspect réglementaire. Si on compare ce PLU par rapport au précédent que nous avions mis en place, les grands changements sont surtout sur les zones agricoles qui ont été multipliées par 7 à 8. Mmh. Voilà. Après, derrière, les choses n'ont pas énormément évolué, si c'est que, effectivement, tout le côté hydraulique, assainissement, tout ce qui est réglementaire au niveau boisement, tout ça a été pris en compte avec une étude environnementale, ce qui a fait qui a renforcé ce PLU.
Les contraintes liées aux nouvelles réglementations thermiques ont été prises en compte, non?
Tout à fait, bien sûr.
Maintenant, c'est une obligation.
Complètement. Hein. Vous avez effectivement, on a pris en compte effectivement par rapport au précédent règlement, c'est des hauteurs du bâti qui ont monté à peu près de 50 cm, 50 à 60 cm, et c'est très permissif maintenant, c'est-à-dire que ce soit sur les rampants de toiture ou sur les façades, côté jardin, vous pouvez avoir de grandes baies vitrées ou de grandes ouvertures.
Par contre, sur la route, pas de grandes ouvertures.
C'est plutôt limité. Hein. C'est plutôt limité. On reste vraiment dans l'habitat dit traditionnel qui ont fait.
Traditionnel de Île-Dieu, oui.
Voilà, hein, c'est ça. Et même si y a quand même des évolutions, parce qu'il y a des baies style atelier qui sont possibles à ce jour. Donc il y a quand même, ça a énormément bougé de ce côté-là.
Les volets roulants. Toujours pas autorisés?
Les volets roulants sont autorisés si cela...
Par exemple, hein, c'est un exemple.
Ils sont autorisés si vous avez des volets fixes avec. Hein. Donc, donc ça vous fait des volets doubles. Donc ils sont assimilés à
pas
des...
Pas beaucoup d'utilité alors?
Ils sont assimilés à des rideaux. Donc, et à condition que le coffret soit intégré dans le tableau d'ouverture. Vous voyez, on a été poussé un peu loin la chose.
Autre sujet, on passe du coq à l'âne aujourd'hui. Le lieu de la base de maintenance du futur parc éolien offshore sur l'île-Dieu est acté ou toujours en cours de discussion, Michel?
Ben, ça fait la sixième réunion que nous venons d'avoir. Donc, il s'agit bien actuellement il s'agit toujours de négociations. Alors que j'explique un petit peu les choses. Donc, il y a eu en mois de juillet dernier une première réunion, puis après
juillet 2016.
2016, voilà. Et donc, on essaie de voir comment avec les deux groupes qui travaillent sur le projet de parc, il y a d'une part la société qui s'occupe de la production d'énergie qu'on appelle Emin, et la société qui fournit les éoliennes qu'on appelle Adwen. Donc ces deux groupes sont venus avec un certain nombre de propositions. Nous avons considéré, nous, qu'elles ne prenaient pas suffisamment en compte la réalité de l'île-Dieu, la réalité de son port, etc. Et donc, nous avons...
Trop industriel, à votre goût? On peut dire ça comme ça ou pas?
Non, on ne peut pas dire que ce n'était pas trop industriel, mais il y a des considérations de lieu. Par exemple, ils sont maintenant d'accord pour que la maintenance principale se fasse au Bossy, donc dans l'ancienne usine qui est à côté du pôle économique, à côté de l'école des pêches. Bon, cette ancienne usine...
Est complètement à l'abandon.
C'est pas à l'abandon parce qu'il y a des petites salles qui sont dedans, mais c'est un bâtiment qui est voué à être effectivement démoli. Hein. C'est l'ancienne glacière et puis ensuite l'ancien centre d'élevage. Bon. Et c'est là qu'il y aura la maintenance principale. Et il y aura
au Bossy.
Donc ouais, ça au Bossy, et il y aura ensuite deux autres lieux qui ont été vus. D'une part, une petite enclave, si on peut dire comme ça, sur l'aéroport, hein, pour la permettre de pouvoir utiliser aussi des hélicoptères. Et puis le quai du Canada, donc hein, qui sera le port d'embarquement. Voilà, donc les trois lieux, ces lieux ont fait l'objet d'un vote du conseil donc municipal. Ensuite, on essaie maintenant de voir dans le détail, c'est comment, par exemple, ça va se passer dans le port. Hein, parce que c'est quand même un lieu, bon, le port est un outil de travail, mais cet outil de travail, nous tenons à ce qu'il ne fonctionne pas n'importe comment. Et il faut prendre en compte aussi les autres usages, que sont l'usage de la pêche, que l'usage de, c'est aussi un port de commerce, c'est un port de voyageurs, etc. Et donc, nous essayons de voir comment on peut mettre en phase l'ensemble de ces usages.
Un grand hangar quai du Canada?
Non, il n'y aura pas de grand hangar quai du Canada. Ça, je sais bien qu'il y a des gens qui ont fait courir le bruit qu'il y a un grand... Non, il y aura simplement...
C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, tout à fait.
Dans ce sens.
Mais j'ai bien vu dans ton regard qu'il y avait beaucoup de malice. Non, il y a simplement la nécessité d'avoir un relais, parce que pour éviter qu'il y ait des va-et-vient continus entre le site des Bossy et les quais du Canada, il faut un lieu où on puisse entreposer un minimum de choses qui seront nécessaires d'être embarquées. C'est aussi le lieu où il y aura les vestiaires, hein, pour les marins. Donc, c'est un bâtiment qui sera au maximum de 150 mètres carrés. Donc, ce ne sera pas grand. Et deuxièmement, ce ne sera pas un hangar. Comme tu le dis, ce sera bien un bâtiment qui sera un bâtiment en pierre, comme était autrefois notre ancienne gare maritime qui était là, avec, comme notre ancienne gare maritime, une terrasse, hein, qui sera là-dessus. Mais tout ça, ça va faire l'objet d'une concertation avec tout un ensemble de partenaires qui sont les usagers du port, de manière générale, ainsi que les commerçants.
Donc, cette voilà. Concertation débute quand?
Alors, cette concertation débutera quand nous aurons des réponses qui sera à peu près adaptées déjà à ce qui nous paraît être important. Et parce qu'il y a aussi, entre autres, la question de la profondeur dans du port. Est-ce qu'il faut que l'on creuse un peu plus le port, entre autres, le chenal du port? Nous nous opposons à ce que il y ait un croisement qui soit trop important pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour des risques d'agitation dans le port, et puis pour des raisons de coût aussi. Et donc, par rapport à ça, ils sont en train de refaire des études, de revoir les choses, et quand il y aura des avancées sur cette question-là, alors nous pourrons prendre le chemin de la concertation.
La concertation, l'été 2017 ?
La concertation se fera avant, certainement. Je pense qu'on aura une concertation qui va pouvoir démarrer lors du printemps, mais pour nous, il n'y aura pas de réunion publique de la part du consortium avant qu'il y ait réponse beaucoup plus précise sur ces questions et que ces réponses nous satisfassent.
Pour faire simple, il faut que les plans soient finalisés pour les proposer à la population.
Exactement. Exactement. Donc, effectivement, les choses seront prêtes pour l'été. Ça, c'est sûr. Si ça peut être avant, nous en serions ravis.
Mm-hmm.
Voilà. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des réunions publiques si les gens, l'entreprise n'a pas de réponse précise à nous apporter. On ne veut plus rester dans le vague comme ça a été précédemment.
Il faut avoir des réponses fermes et définitives. On peut
tout
dire
à
ça
fait,
comme ça.
Exactement.
Autre point sensible de l'Île-Dieu, l'expansion de la zone artisanale. Qui veut en parler ?
Oui, point sensible,
non.
Disons que c'est une nécessité d'agrandir cette zone artisanale parce que on a un essor économique, donc c'est important de pouvoir l'accompagner et de permettre aux artisans de s'installer en zone artisanale.
Ils sont nombreux, les artisans, qui veulent s'installer à la zone artisanale de oui. Marèche actuellement ?
Oui, on a des demandes.
À peu près une dizaine en ce moment.
Oui, facilement. Et donc,
une dizaine d'entreprises veulent s'implanter sur l'île-Dieu.
Sûr.
Soit des entreprises existantes, soit des extensions d'entreprises, soit des entreprises nouvelles. Généralement, c'est pour les entreprises existantes, c'est des entreprises qui sont peut-être pas les trois là où elles sont, etc., etc. Donc, de toute façon, c'est un outil qui est indispensable pour la bonne marche économique de l'île. Donc, cette extension, aujourd'hui, on a acquéri, on va dire, 90% du foncier ou 95% du foncier, le reste est en passe de l'être. Donc on va pouvoir mener les études pour faire cette extension qui va être un petit peu longue parce que on a aussi l'implantation du centre technique municipal aussi sur cette même zone
artisanale de la marche, oui.
C'est ça, donc il faut articuler tout ça, voilà.
C'est assez sportif, non ?
Non, c'est disons que sur cette extension, on a aussi des discussions avec les riverains parce que pour limiter les impacts et puis bien circonscrire les activités de la zone artisanale.
Qu'est-ce qu'ils en disent, les riverains, de cette extension ?
Disons qu'il y avait beaucoup de discussions en amont concernant le pôle Gravat des Chais Verts. Ça fait suite à ces discussions qu'on a discutées sur l'extension de la zone artisanale pour bien couper les activités économiques des activités d'habitat. Mais j'ai envie de dire, le pôle Gravat des Chais Verts, c'est ça qui fait le plus peur que le reste. Nous, on fera attention de mettre en limite des activités pas bruyantes, même si on a prévu de faire un merlon tout autour de cette zone artisanale pour limiter les nuisances.
Le pôle Gravat des Chais Verts, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui?
Donc le pôle
Gravat des Chais Verts. On reste à la zone artisanale de la Marèche.
Oui, il était prévu d'ouvrir le 1er mars et donc il va ouvrir le 1er mars. Donc on n'ira plus porter nos gravats, nos déchets verts au corbeau, ce sera bien sur cette zone de la Marèche, à cet endroit, donc qui sera baptisé le pôle de la gravère. Alors, c'était pas évident.
Pour gravats et déchets verts, gravère.
Oui, et R-A-I-R-E pour R de gravats, déchets verts. Mais non, on a fait un néologisme, on a inventé un nom parce que c'était compliqué de dire pôle gravats, déchets verts ou de... de dire ben, pôle de la Marèche, alors qu'il y a déjà la déchetterie, il y a déjà d'autres, d'autres éléments. Et puis la Marèche, c'est la zone artisanale dans son ensemble. Donc on a trouvé ce nom pour que ce soit plus court à dire. Il va ouvrir le 1er mars. Et donc il y aura un traitement déchets verts pour faire du compost. Et puis les gravats feront l'objet d'un tri, éventuellement concassage, etc. pour faire une réutilisation sur l'île. Parce que le pire, ce serait bien sûr de les expédier sur le continent.
Les riverains, ils sont d'accord, favorables maintenant, ou ils ont toujours un peu de doute?
Bah, je pense qu'il y a toujours des craintes, et puis c'est logique sur un projet comme celui-là, qui y ait des craintes autour. On a beaucoup discuté aussi avec la préfecture, ils se sont déplacés aussi là-bas. Trivalis a amendé son projet pour faire... tenir compte des remarques qui leur ont été faites, hein, notamment par exemple le traitement d'odeur sur les déchets verts, etc. Bon, il y a les merlons autour, donc je pense que aujourd'hui c'est quand même de nature à apaiser les craintes des uns et des autres. On fera en sorte aussi que les campagnes de concassage se fassent à des périodes. À des périodes qui soient moins impactantes, et puis même en termes de plage horaire, etc. Et puis ce sera que des petites périodes dans l'année, de toute façon.
En évitant la belle saison de par la poussière. C'est pour ça que l'automne, c'est la période la plus appropriée pour cribler et concasser.
Bon, en gros, 10h midi, 16h, 18h.
En tout cas, c'est prévu qu'une campagne de 15 jours à 3 semaines maximum par an, et seulement à l'automne.
Ouais. Cette plateforme, bon, nous, on l'a dit, on l'a redit, on aurait préféré rester au Corbeau. On n'a pas pu, parce qu'il y avait un jugement en Conseil d'État, donc on a été un peu contraint sur cette question. On aurait préféré être beaucoup plus loin des habitations. Maintenant, l'exploitation d'un site comme ça, qui fait de la réalisation de compost dans un bâtiment fermé avec traitement d'odeur, c'est des choses qui vont coûter cher, même en exploitation. Donc l'idée, c'est aussi de faire de la prévention auprès des gens pour que chacun composte aussi sa pelouse chez lui, etc., et qu'on se retrouve pas inondé sous un flux de déchets verts ou de gravats. Je pense que il y a des réutilisations à faire sur place, ou des choses à trouver, des complémentarités à trouver pour en amener le moins possible sur cette zone.
Le site sera plus petit, hein. On le souligne. Hein. On avait 7-8 hectares au Corbeau, et là on a que 12 000 m², donc et là, il fera une gestion fine de tous nos gisements.
C'est bien de le préciser, Patrice. Que va devenir les Corbeaux?
Donc, sur le site d'éco-station des Corbeaux, donc on a un suivi trentenaire. Hein, l'objectif, effectivement, c'est de... à ce jour, il est en réhabilitation. Ça va s'achever bientôt. Hein, et puis après, les projets qui verront le jour. À ce jour, on est en grand débat avec les services de l'État. On a des projets dans nos tuyaux. Parce que laisser une surface...
Quels sont les projets, Patrice, si tu veux nous en dire plus?
Après, c'est difficile de s'avancer. Un projet reste un projet. Je peux peut-être laisser la parole à Michel concernant ce projet tient à cœur. En tout cas, sur ces presque ces 10 hectares. Laisser 10 hectares comme ça, on sait que chaque mètre carré compte sur les lieux. Et pour nous, il nous paraît important d'exploiter au minimum une partie de cette surface.
Michel.
Non, mais l'idée que nous avons, c'est que, et c'est pas contradictoire avec le fait d'être dans une zone classée, c'est qu'on pourrait parfaitement, sur cette zone, puisqu'il y a une obligation trentenaire de ne pas y toucher, de ne rien faire d'autre, on peut y être tout à fait, y poser une centrale photovoltaïque, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits. Et ce qui permettrait à l'île, dans un endroit qui est complètement isolé, parce que quand on va là-bas dans cette zone, quand on va sur cet ancien emplacement, des centres d'enfouissement, on est entouré par des rideaux d'arbres et on ne voit rien, quoi. Mmh. En fait, cette zone-là permettrait d'avoir une implantation d'une centrale photovoltaïque en toute tranquillité et sans co-visibilité. Et ça permettrait à l'idée de commencer un peu à participer à une relative autonomie énergétique. Voilà.
Cette centrale est déjà dans les tuyaux ? Non. C'est vraiment un projet ?
Non, elle attend actuellement le feu vert du ministère de l'Environnement.
Le feu vert sera donné quand ?
Ah ben,
est-ce vous ne le savez pas pour l'instant.
Est-ce qu'il sera donné un jour ?
Mais vous le souhaitez ?
Évidemment.
Ah oui,
évidemment.
Vous êtes tous d'accord ?
Ah oui.
Autre sujet à découvrir aujourd'hui, les biens sans maître. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'un bien sans maître ?
Bien sans maître, propriétaire inconnu. Mmh. Effectivement, ce sont des parcelles qui ont fait l'objet de beaucoup de débats. D'abord, c'est des propriétaires qui... Voilà, des terrains qui sont, que ça soit du bâti ou du non bâti, où ce que, il n'y a plus de propriétaires connus. Et à partir de là, nous avons toute une procédure que nous avons enclenchée. Hein. Je vais laisser Johan débattre d'un dossier qu'il maîtrise de fond
de comble.
C'est le cas de le dire. En tout cas, nous, ce qui est important, c'est qu'on a lancé une démarche sur 150 biens.
Hein. Donc, 150 biens sur une
150 bien. Terrains, en gros. Et dans, sur ces 150 terrains, on voilà, on n'a pris qu'une petite partie, hein, parce qu'on va doucement. L'important, c'est que, voilà, les 20 premiers terrains qu'on a, de ces biens sans maître, ce sont des terrains, la plupart d'entre eux qui sont constructibles. Donc on a lancé toute une démarche, et à partir de cette démarche, une fois que cette démarche va aboutir, on pourra rédiger un acte et les commercialiser, ou les remettre dans le parc immobilier de la collectivité. Je laisse Johan en parler.
Johan, oui.
Oui, donc comme disait Patrice, il y a environ 150 biens, donc 147 pour être précis, qui sont aujourd'hui clairement identifiés par les services du cadastre comme étant associés aux propriétaires inconnus. Et la procédure en cours là, depuis environ 2 ans, donc en association avec Vendée Expansion qui nous assiste, hein, notamment sur les points juridiques, on a décidé d'en mettre 19 là, dans la valise. Et forcément, ces 19-là sont des biens qui sont soit classés en zone urbaine, soit à l'intérieur d'emprises où des projets publics doivent sortir, et notamment à la Marèche. Donc... L'objectif est double, hein, forcément, c'est de... Bon, avant, les biens sans maître étaient rapatriés dans le bien public des services de l'État. Aujourd'hui, c'est délégué aux communes, donc là, ça va être une première là, pour la commune de Lisieux. L'objectif est double, en fait, c'est d'éclaircir un petit peu le cadastre, parce que pour tout un tas de procédures, notamment de bornage, un bien propriétaire inconnu bloque les opérations de bornage, notamment, hein, par exemple. Et évidemment de faire en sorte que la commune s'approprie ces biens-là pour les commercialiser en bonne et due forme. Donc ça, c'est les deux principaux objectifs. Maintenant, là, dans la planification, on est... Alors, certains d'entre vous ont dû le voir, hein, des petites pancartes
sur
le bord de voie pour présenter rapidement la situation du terrain, pouvoir venir évidemment se renseigner en mairie sur le projet et sur le type de bien. Et derrière, donc là, on en est justement où cette phase d'affichage est clôturée. Et là, Vendée Expansion travaille actuellement, justement, comme le disait Patrice, avec le service des hypothèques, là, sur la publication au titre de la commune de Lisieux. Donc, cela rentrera dans le domaine privé de la commune pour que ces 19 biens, en fonction des remarques hein, qui ont été aussi reçues, puissent être commercialisés demain ou utilisés, en tout cas, par la commune.
Un acheteur pourra construire sa maison sur ces terrains, oui. S'il le désire.
À partir du moment où la commune le cédera, c'est qu'elle pensera forcément que le bien lui appartient et elle pourra le commercialiser librement comme les biens d'aujourd'hui.
Ça, c'est au final, oui. À l'issue de la procédure, la commune devient propriétaire de ses biens. Après, elle en fait l'usage qu'elle le souhaite, bien sûr.
Les vendre ou les garder pour...
Voilà.
Pour faire des constructions ou autre.
Ouais, c'est ça.
En parlant de ventes, les ventes de biens de la commune de Lisieux sont en vente actuellement. Ils sont nombreux ?
On en a quelques-uns, oui. Mm-hmm. Nous, très nombreux, voilà, on a effectivement une commission foncier et chaque année, on essaie de vendre des biens. Alors, effectivement, à ce jour, on a mis en vente le billard club avec, en fait, il a été décomposé en 5 lots. À ce jour, on a vendu 3 lots.
Pour faire des habitations, non ?
Tout à fait. C'est des privés qui ont fait l'acquisition de ces biens. Et voilà, c'est l'orientation. Chaque année, on vend quelques terrains. On a vendu dernièrement aussi un terrain rue du Frinot. Mais voilà, donc petit à petit, on vend quelques parcelles comme ça. Mais on, voilà, comme on a dit tout à l'heure, on va en faire aussi l'acquisition de nouvelles. Donc,
C'est bien surprisé des acheteurs ? Ou par exemple le billard Club Ilet, ça a été facile à vendre ?
Ben, facile, d'abord, faut dire que le bâtiment lui-même n'est toujours pas vendu. Hein, rien n'est facile hein, à ce jour. Bon, le prix du foncier est quand même, faut le dire aussi, assez élevé sur notre territoire. Ça, on en sait quelque chose. Donc, nous, on met les prix, effectivement, les prix du marché. Hein, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on travaille en partenariat avec le notaire et effectivement les agences. Et d'ailleurs, ces biens sont en vente dans tous ces points.
On parle d'autre chose maintenant. Le phénomène d'érosion dunaire prend-il de l'ampleur sur les lieux ? C'est vrai qu'on passe du coq à l'âne aujourd'hui. Bruno, Michel,
Johan. Il est en tout cas existant. Après, prendre de l'ampleur ou pas, c'est difficilement évaluable, mais c'est un phénomène qui existe et qui génère des problèmes. Alors,
surtout Corbeau, non ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Non, pas que là. On a une campagne actuellement de réhabilitation des enrochements qui avaient été faits dans le nord-ouest de l'île, plutôt bordure de voies ou bordure de maisons. Donc là, on va avoir plusieurs tranches parce qu'on commence par réaliser le nord-ouest et puis on va continuer par la suite à s'en aller sur Kerchalon jusqu'au Marais Salé. Donc là, il s'agit de reprendre les protections existantes. Après, il y a d'autres endroits qui nécessitent d'autres traitements. On ne peut pas mettre des enrochements partout, donc il faut trouver d'autres techniques. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est bien présent, quoi. Alors après, en analyser les causes, c'est toujours complexe. Il y a des causes certainement macro, c'est-à-dire le réchauffement climatique ou des choses comme ça. Des causes peut-être plus locales, ou au moins par le passé, quand on allait faire des extractions de sable à des endroits, au Corbeau par exemple, ça a sûrement influé à un moment donné. Peut-être que quand le port, on a allongé la jetée, ça a dû couper un peu le transit de sable. On est aussi là depuis quelques années dans un pic d'occurrence de grandes marées avec un coefficient moyen qui est plus élevé parce que c'est des cycles qui sont solaires, qui se déroulent sur plus de 20 ans. Bon, il y a tout un tas de causes. Après, si on a un hiver avec plus de tempêtes, ben, ça gratte un peu plus, etc. etc. Donc, c'est difficile d'appréhender toutes ces causes. Néanmoins, comment on fait pour stabiliser le trait de côte ? Bon, on a dit dans les zones rocheuses ou des zones habitées, zones portuaires essentiellement, on a plutôt recours à des enrochements. Ailleurs, bon, il y a aussi la vie de la dune, donc il ne faut pas stopper le transit de sable. Donc c'est des méthodes plus douces, on a fait des poses de ganivelle ou autre.
Et puis on est sur une nouvelle technique.
Patrice, oui. Nouvelle technique.
Ah, oui, tiens donc. Ben, monsieur le maire, c'est un projet qui lui tenait à cœur et là, il m'a dit qu'il se lançait pour le faire. C'est-à-dire qu'on a mis un peu des piquets avec des fagots et là, plus loin, on va remettre que des fagots attachés avec des cordages. On essaye plusieurs techniques parce qu'il y a plein d'endroits, comme le disait tout justement Bruno, où il y a déjà des enrochements existants. On en met en place, on va réhabiliter, hein, que ce soit, comme vous avez vu dernièrement, la Pulante, le Cours du Moulin, les Gorons et le Poissy. Demain, vous aurez Kerchalon, Gilberge et Marais Salé. Mais là, effectivement, là, à la pointe de la Gournaise, on est en train de faire plusieurs essais. On a fait des essais avec des piquets et puis des fagots. On a fait des essais avec des ganivelles. Et puis là, on fait refaire des essais dans la continuité que des fagots. Et l'objectif, c'est aussi d'essayer aussi à la grande conche, sur des portions
ouais,
aussi.
Bien.
Pour voir, parce que dans l'étude... On avait fait une étude HD il y a 8 ans de ça. Une étude sur l'érosion dunaire.
Merci.
Hein, pardon. Cette étude sur l'érosion dunaire avait démontré qu'effectivement, on avait une houle complètement différente entre la côte sauvage et la côte nord-est. Sur la côte nord-est, on a en fait une houle qui est perpendiculaire par rapport à la côte sauvage, on a une houle qui est parallèle. Ce qui explique pourquoi que le sable part, par exemple, au Sabia ou à d'autres endroits, l'hiver. Donc, effectivement, on a cette houle rabot qui est sur le nord-est de l'île, où, à un moment donné, on voit qu'effectivement, ça gratte, ça. Mais comme le dit Bruno, c'est en fonction des cycles lunaires et des coefficients de marée. En toujours est-il, c'est que, comme, de toute façon, on ne peut pas maîtriser les choses, simplement, on s'aperçoit qu'avec l'éolien, on obtient de bons résultats. Donc c'est avec nous, des innovants, on voit pas mal de collectivités, que ce soit dans le nord de la France ou ailleurs, qui se lancent dans pas mal de démarches, mais démarches qui sont tout à fait sobres. Hein. Mmh. Donc nous, on va faire des essais un peu partout. Donc si vous voyez des essais un peu partout, c'est que voilà, on aura au moins les mérites d'essayer de faire quelque chose.
On se balade aujourd'hui le port de la Meule. Vous voulez parler du port de la Meule? Il y a un projet en cours ou à venir? Qui vous tient à cœur?
Vous tient à cœur. Ouais. On va creuser le port pour faire rentrer l'insula à l'intérieur.
Non, c'est pour le futur bateau de maintenant. De maintenant, pour le parc éolien.
Oui, c'est non, c'est attention, un sujet Michel, c'est enregistré.
Non, hein. C'est plutôt l'abord du port de la Meule, ouais, parce que le long du restaurant, il y avait un perret historiquement qui était de la même type de maçonnerie que les quais du port. Donc l'idée, c'est de pouvoir le refaire tel qu'il était autrefois, de réhabiliter toute la zone de parking. Bon, bah, par exemple, il y a les WC qui sont pas très chouettes et en tout cas pas accessibles handicapés. On a ce poste de relevage qui est un peu au milieu de la danse, j'ai envie de dire. Donc c'est de réhabiliter l'ensemble, c'est l'entrée du port de la Meule, donc je crois qu'il faut pas se louper, quoi.
On a toute la couleur verte à remettre en valeur. Mmh. Et on reprend tout le cheminement, comme le disait Bruno, devant le restaurant, aller jusqu'à Tête Jaune. Je pense que tout le monde connaît Tête Jaune sur l'île. Donc l'objectif, c'est revoir tous ces cheminements.
On va pas à pied à Tête Jaune. Hein.
Et on mettra pas une passerelle non plus.
Dommage.
En tout cas,
ça aurait pu faire une belle visite.
Ce projet est surtout un aspect concernant le volet paysager. Hein. Mmh, et puis ouais. Effectivement, on a deux terrains qu'on veut aménager pour des aires de pique-nique et enfin c'est plutôt l'espace récréatif.
Ouais, parce que Patrice disait ouais ça va plus largement parce qu'il y a les abords de la chapelle de la Meule, il y a beaucoup de piétinement, etc. Donc il faut arriver à canaliser tout le monde, faire en sorte que le parking en bas soit bien utilisable et puis gérer les circulations, etc., etc.
Ces travaux ont déjà débuté ou vont débuter bientôt?
Non, parce que là il s'agit d'abord de faire appel à un architecte paysagiste hein, pour dessiner le projet, même si on pourrait se dire, bah tiens, on fait le petit bout de perret, mais je pense que il faut voir le projet dans sa globalité, donc on a besoin de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage, et puis après, ça fera l'objet de travaux. Oui.
Les travaux vont débuter quand? Vous savez pas? Pas pour l'été 2017, à
mon avis. Non, mais je pense que l'année 2017, ce sera la partie études, donc au mieux, c'est un démarrage 2018 avec d'incertitudes sur le calendrier, parce que c'est des passages en commission des sites, etc. Donc,
ça peut prendre du temps.
Long et fastidieux.
J'insiste, Roland.
Oui, Patrice.
Sur tous les dossiers qu'on a évoqués, que ce soit sur l'érosion du nerf ou ce que tous les travaux, comme les 140 000 euros qu'on a mis cette année, qui sont subventionnés à 55%, il faut le rappeler aussi, que la partie administrative, c'est aussi la recherche subvention. Et ça, c'est le travail quotidien des élus, c'est d'aller chercher un maximum de subventions dans tous leurs projets pour que ça coûte le minimum pour la collectivité. C'est comme ça qu'on peut faire une multitude de projets. Et tous les projets qu'on évoque cet après-midi, effectivement, ils font l'objet de nombreuses subventions, mais grâce à cette démarche des élus.
Subventions du département, de l'État, de la région?
À tous les niveaux.
Oui. Européenne aussi?
Bien sûr.
Exactement. Michel?
Oui, ça c'est une question qui nous est quelquefois donc posée. On nous dit, mais attendez, mais vous êtes une commune, vous n'avez même pas 5000 habitants, mais vous avez un certain nombre de projets, un certain nombre de réalisations, mais comment vous faites? Voilà. Mm-hmm. Bah, tout simplement parce que nous sommes devenus un peu experts dans la recherche de financement, les uns et les autres.
Par exemple, vous l'avez testé pour l'économie verte.
Par exemple.
Oui,
les recherches de subventions.
Tout à fait. Un million. Mm-hmm. Voilà.
Puis, pas seulement. C'est un vieux projet qui me tenait à cœur là, depuis 10 ans. J'étais pas encore maire sur les surcoûts insulaires, notamment pour les communes qui sont confrontées aussi à cette problématique. Et donc à l'époque, on avait réussi à emmener les autres maires des îles du Ponant sur une étude de ces surcoûts communaux. On avait missionné un des 10 experts en France sur cette question, Yann Lemeur, qui avait vraiment été très bon dans ses analyses. Ça a pris du temps de faire du lobbying auprès de nos différents politiques. Néanmoins, cette étude sur les surcoûts, elle a montré quoi ? C'est que pour les 14 communes insulaires de la côte, hein, de la côte française, le surcoût, c'est 2 millions en fonctionnement et 2 millions en investissement.
Donc 4 millions.
Donc 4 millions. Donc on a demandé 4 millions.
Par an ?
Par an, bien sûr. Sur une enveloppe dédiée, donc qui est un peu annexe à la DGF. Il y a quelques enveloppes dédiées qui existaient pour la Corse, certains DOM, etc. Donc c'était compliqué d'avoir une ligne sur une enveloppe dédiée, parce que dans un premier temps, on s'était dit, finalement, si on demande une enveloppe dédiée, on ne l'aura jamais. Donc on pouvait aller amender les critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement, si on amendait le kilométrage de voirie ou autre, ce qu'ont fait les communes de montagne du reste. Finalement, on avait réussi à amender un petit peu le kilométrage de voirie. On s'était fait un peu bananer sur le reste. Là, on était reparti donc avec une étude et une demande ferme d'enveloppe dédiée cette fois, qu'on a obtenue en novembre dernier.
4 millions d'euros, on l'appelle.
4 millions d'euros et donc qui est répartie au prorata de la population DGF des îles. Alors je pensais que c'était 1,2 million. Le chiffre exact, c'est 1,139 million pour la commune de l'Île-Dieu, parce qu'on pèse pour à peu près un tiers de la population des îles. Donc 1,139 million de plus par an pour la commune, c'est bien, ça va permettre de réaliser des projets. Et encore une fois, ça n'est que de rétablir la vérité par rapport aux communes continentales. Donc c'est pas un cadeau, c'est juste de l'équité qu'on nous a remise, mais ça fait du bien.
La fibre optique sur l'Île-Dieu, c'est au mois de juin prochain.
Oui.
Fibre optique plutôt montée en débit.
Plutôt montée en débit.
Disons et pas pour tous les quartiers.
Elle est déjà arrivée sur l'île parce qu'en à l'époque, la vocation du câble optique entre l'Île-Dieu et le continent devait être portée par Vendée Numérique qui n'était pas créée. Donc ça avait été une structure régionale chez Chigalis qui l'a portée et qui, eux, avaient leur propre... leurs propres priorités.
Gigalis, c'est la région.
Oui, c'est ça, Gigalis. C'était notamment de desservir l'hôpital. Donc l'hôpital aujourd'hui est
fibré.
Est fibré.
Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien, oui. Ça permet de faire des consultations à distance, etc. La deuxième étape, donc, c'était la reprise du reste du câble, j'ai envie de dire, par Vendée Numérique, de l'amener aux centrales téléphoniques.
Vendée Numérique, c'est le département.
Oui. Pour fibrer ce central téléphonique, ce qui va permettre de faire du dégroupage total. Et le département, via Vendée Numérique, a lancé un appel d'offres pour l'exploitation de ces lignes optiques sur tout le territoire vendéen. Donc il y a un partenariat avec Orange, qui a été signé à Lille-Dieu. Donc ça nous a fait très plaisir symboliquement que ce partenariat entre le département de la Vendée et Orange ait été signé à Lille-Dieu. Ça montre aussi l'attachement et l'importance de ce câble optique pour Lille. Donc ça va permettre quoi ? Alors plusieurs choses. D'une part, ce central va avoir plus de capacité, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, tout passe par ce central et donc par ces lignes hertziennes, que ce soit l'Internet, la téléphonie mobile, etc. etc. Puis on le voit bien l'été, les portables marchent mal.
L'été, ça rame, on peut dire ça comme ça.
Ça rame, Internet rame, etc. Donc ça, on devrait pouvoir s'en affranchir largement. Et accessoirement, il y avait quelques sous-répartiteurs sur l'île, on va dire des micros centraux téléphoniques, qui reliaient des clients derrière et avec un certain pourcentage qui avait un certain taux de perte en ligne. Alors ça, c'est défini au niveau national, mais ces sous-répartiteurs qui rentraient dans ces critères pouvaient être fibrés. Donc c'est le cas de 3 sous-répartiteurs à Lille-Dieu. Il y en a un à la Meule, il y en a un au Bourg et puis un à la Croix. Donc les travaux vont se réaliser, ce qui va permettre aux habitants de ces endroits-là de bénéficier de l'Internet comme s'ils étaient proches du central téléphonique.
C'est pour ça qu'on parlait de montée en débit.
Tout à fait.
Ouais. Alors, Il y a un point qui est important aussi sur les offres que vont pouvoir faire, notamment Orange, parce que c'est lui qui va être gestionnaire de ce réseau, mais d'autres opérateurs pourront se mettre dessus, hein, et à mon avis, ils viendront. C'est les offres, leur triple play pour, par exemple, la télévision par Internet. Donc ça, c'est un point... Un point important.
Qu'on va évoquer.
Qu'on va évoquer, exactement.
Bah, je ne sais pas, on peut l'évoquer maintenant. Donc, cette télévision par Internet, jusque, bon, tous ceux qui sont chez Orange, demain, les autres opérateurs, je pense, pourront le faire aussi. Hein, il suffit qu'ils se manifestent. Et qu'ils, donc, sur un central téléphonique comme Elilieu, qui était le plus gros de France, non dégroupé. Et il va y avoir du monde qui va venir au portillon, mais toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est les gens qui sont chez Orange, aujourd'hui, dans leur abonnement, payent déjà la télé par Internet, alors qu'ils ne peuvent pas la recevoir. Donc demain...
À partir du mois de juin, normalement.
Du mois de juin, ils pourront recevoir la télé par Internet. Il faudra juste faire un échange standard de box, mais on fera une réunion publique à ce moment-là pour l'expliquer. Ça ne coûtera pas plus cher aux gens, c'est juste qu'ils pourront recevoir la télé par Internet.
Ce qu'il faut reconnaître
aussi. Parce que c'est vrai que la télé par la TNT ne marche pas très bien sur l'île.
Vous me cassez toutes mes transitions aujourd'hui.
Mais non, mais je sais que t'allais en parler. Et puis c'est bien qu'on en parle. Mais cette réception par TNT, elle marche pas bien. On n'est pas un cas unique hein, sur l'île-lieu, un peu partout. Ça marche pas très bien. Nous, on avait fait remonter l'info. Alors, on s'était laissé entendre dire que c'était le signal de Basse-Goulaine qui avait été baissé un temps et qui permettait pas de recapter, enfin que TDF, parce que tout était à TDF, hein, la commune est propriétaire de rien là-dedans.
TDF, Télévision de France.
Ouais, captait mal le signal de Basse-Goulaine et donc ça retransmettait mal sur l'île. Donc ils sont venus faire des mesures, ils sont venus avec un camion pour voir en différents points de l'île comment capter la télé. Dans un premier temps, ils nous ont dit « bah si, ça marche bien votre truc ». Bah non, ça marche pas bien, ça coupe par moment, etc. etc. Et
Michel acquiesce.
Ouais. Je m'étais dit, c'était avant que la fibre optique arrive, mais attends, quand la fibre optique va venir, on n'a qu'à amener la fibre au château d'eau. Et puis, on capte un signal par fibre optique qu'on retransmettrait sur l'antenne. Et puis, du coup, il n'y aurait peut-être plus trop de problèmes. Alors, on a pris contact avec TDF, qui a interrogé le CSA, qui a dit « Oui, c'est possible, mais en fait, on ne fait pas comme ça. On va plutôt chercher un signal satellite avec des paraboles. » Très bien, pourquoi pas. Ce qu'il y a, il faut qu'on mette l'ensemble des multiplexes d'accord. Donc un multiplex, c'est un bouquet de chaînes, c'est plusieurs chaînes de télé qui émettent sur la même longueur d'onde. Et donc il y a 6 multiplex. Il faut mettre d'accord l'ensemble des multiplex pour qu'ils cofinancent tous une partie de la parabole, donc un nouveau système, donc il faut qu'on leur montre que ça marche mal, etc., etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Une fois qu'ils sont d'accord, il faut que cette solution soit revalidée par le CSA, puis par TDF. Donc, ça a été le cas. Et donc, j'avais un message il y a une quinzaine de jours.
De TDF,
nous disant que les travaux allaient débuter sous peu sous le château d'eau. Et le sous peu me tarde encore un peu. Donc, je repars aux nouvelles pour savoir où ça en est.
Mais
au jour d'aujourd'hui, j'avais pas de nouvelles. Ça aurait dû être fait la semaine dernière. C'est pas fait. J'espère que ça va être fait là dans les jours à venir, ce qui permettra de mieux capter. Alors c'est pas tous les
multiplex.
Tout le multiplex, il en manque deux qui seront faits ensuite. Hein. Mais déjà, ça devrait beaucoup améliorer la réception de la plupart des chaînes.
Je voudrais faire une remarque concernant la fibre optique. On a un petit point d'honneur à mettre parce qu'on est la première île de la côte atlantique à avoir la fibre optique. Donc ça, il faut le souligner. Nous sommes les premiers. Donc effectivement, on s'inscrit dans une volonté départementale et effectivement, on a un département pilote dans différentes mesures. Alors effectivement, demain, voilà, à partir de la fin du mois d'août 2017, on va pouvoir utiliser Internet dans de meilleures conditions.
Ça sera un mot de la fin. Merci Bruno Nourry d'être venu sur Neptune FM. À très bientôt.
Merci.
Merci Patrice Bernard. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci Michel Charvaux. À très bientôt.
Oui. Au revoir Roland.
Merci Johan Pruneau. À très bientôt.
À bientôt Roland.
La mairie vous répond. Le rendez-vous des élus de l'Île-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.